dans la louange. Je crois que ça fait du bien d'élever le nom de l'Éternel et de lui dire que ma vie soit pour toi comme un parfum que je répands devant toi. Oui, notre vie est peu de choses, très peu de choses. On est comme une fleur, comme une brindille qui dure un peu de temps. Le soleil vient, elle sèche, et puis la place qu'il occupait a disparu. Et nous offrons ce que nous sommes au Seigneur, notre vie, comme un parfum. Parce que notre vie, même si elle est peu de choses, notre vie a une grande valeur aux yeux de Dieu. Une énorme valeur aux yeux de Dieu. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et on a de l'importance pour lui. Et quand on le loue, on n'est pas à plat ventre. Parce que Dieu veut nous élever. Dieu veut que nous prenions notre place d'homme et de femme devant lui. Il est grand, mais il a fait de nous des personnes importantes à ses yeux. Pas simplement des brins d'herbe. Alors voilà, maintenant on va passer au temps de prédication. Alors je vais demander à Norbert Vallée, qui est pasteur à Mora, si je ne me trompe pas, de venir. On va prier. Il va se mettre là derrière parce qu'il a besoin de son ordinateur. Et puis, on pensait que les lutrins étaient un peu fragiles. Oui, on va prier. Bien, notre Dieu, notre Père, nous voulons ouvrir nos oreilles, nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons ouvrir notre être à ta parole et nous réjouir, Seigneur, de ce que nous allons entendre. Et même, Seigneur, si tu nous touches à des endroits où ça fait un peu mal, nous voulons nous réjouir parce que tu vas venir pour cautériser, pour soigner, de sorte que nous puissions être debout, marchant devant toi, Seigneur. Merci de bénir notre frère. Merci de bénir ce qu'il va donner et que ce soit pour nous des paroles vivantes. Amen.
Voilà, merci de votre attention. Un projet d'église, vous avez vu des styles différents. Mais personnellement, quel que soit le style, si le but de l'église est simplement de rassembler des gens pour vivre quelque chose de sympa, quel que soit le style, à mon sens, l'objectif du royaume de Dieu n'est pas atteint. On pourrait bien sûr servir Dieu sous une forme monastique, se dédier à la prière, c'est un appel, c'est un ministère, c'est vrai. Et puis, j'ai l'impression que parfois, peut-être dans nos églises aussi, on vit une certaine forme de monachisme non avéré. Ça veut dire on est ensemble, on partage la foi, on sort quand même, on n'est pas cloîtré, mais parfois notre foi, nous avons de la difficulté à la partager avec les autres. Et je pense que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, quelle que soit la forme qu'on mettra, ce qui va toucher les gens, c'est toujours cette parole de Dieu. C'est de cela que j'ai personnellement envie de vous parler aujourd'hui. Alors, j'avais hier par exemple un mariage, c'était assez étonnant, après la cérémonie, quelques personnes sont venues me voir. Et il y avait là notamment un homme qui est un médecin spécialiste de la médecine chinoise et acupuncteur. Alors il m'a dit, voilà, il avait été touché par ce qui a été dit, ce qui s'est passé. Et au fond, on remarque que ce genre de personnes cherchent aussi Dieu, cherchent quelque chose. Hein. Il parlait de... voilà, alors moi, comme j'avais lu pas mal de choses sur ces techniques, on a eu un échange très intéressant. Il me dit, mais moi, je cherche au fond, dans ce que je pratique, je cherche l'action du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous imaginez. c'est intéressant, hein? Donc, on a plein de gens qui ont des formes de spiritualité, qui recherchent. Lui, il a étudié d'abord la médecine allopathe, puis ça ne lui a pas convenu. Il trouvait qu'il y avait une partie de l'être humain qui n'était pas rejointe. Il a cherché autre chose. Il n'a peut-être pas trouvé au bon moment, peut-être un repère dont il aurait eu besoin, mais je suis toujours assez impressionné qu'il y a des gens qui cherchent. On a plein de new ageux, comme je dirais, de gens qui sont dans le new age et qui sont intéressés par la spiritualité. Et c'est une chance pour nous. Et on a pu partager avec cet homme quelques... Je dis, ben voilà, ça par exemple, c'est écrit dans la Bible. Il parlait du matérialisme qui le bouleversait. C'était vraiment pas possible, ce matérialisme. Ben, je dis, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a déjà 2000 ans, quelqu'un qui nous a dit que l'amour de l'argent, c'était une racine de tous les maux. Ah bon? Ah bon? Et puis voilà, on a partagé deux, trois choses comme ça. Simplement... Dieu attend que nous puissions sortir. Moi, j'aime bien dans la parole du semeur, il dit un semeur sorti pour semer. On ne peut pas semer simplement dans sa maison et imaginer que ça pousse. On a besoin de faire un effort, de sortir et avoir une pensée qui est d'une communication, un esprit ouvert et actif, dans ce sens où quand on se lève le matin, quand on parle au Seigneur, dire « mais... dirige-moi, Seigneur, vers les gens que tu veux pour que j'aie une porte ouverte », d'être attentif aux portes que Dieu veut que nous puissions partager. Alors j'aimerais bien partager quelques choses avec vous. J'aime bien revenir un petit peu à ce que nous dit l'Écriture. Au commencement, là, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Pour moi, ce n'est pas simplement une réalité créationnelle. Je pense que la parole de Dieu, mais la parole tout court aussi, a une influence dans nos vies, la communication. Alors tout ce qui a été créé par ce que Dieu a dit. Ça nous dépasse. Je ne veux pas entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond à ce niveau-là, mais l'être humain... Image de Dieu est aussi ressemblant à Dieu par sa faculté de communiquer et de parler. Nous sommes à son image dans cette notion de la faculté de parler. Et la parole, bien qu'elle soit une des plus importantes facultés de communication, nous savons que cette communication n'est pas toujours très simple entre les êtres humains. Mais elle est un facteur fondamental, la parole en général, ce que nous entendons, même dans notre plus tendre enfance, va fonder notre personnalité. Et si nous entendons, pour ceux qui font de la relation d'aide, ils le savent très bien, si nous entendons des choses négatives, des formes de malédiction, des choses qui sont dites sur nous, alors parfois, nous allons croire ce que nous avons entendu encore longtemps dans notre vie d'adulte. Et la parole de Dieu, elle vient pour réhabiliter et rétablir ce que Dieu a voulu créer dans notre vie. Il vient par sa parole nous délivrer des mauvaises paroles que nous avons entendues pour nous mettre en communication avec lui, en connexion. Dieu n'arrête pas de vouloir communiquer. Dans toute l'histoire, il a trouvé un homme, Abraham, qui était à l'écoute. Il a trouvé des hommes qui ont voulu l'entendre et qui sont eux-mêmes devenus, on peut dire, des porte-paroles de Dieu lui-même. On voit ça aussi dans le premier chapitre des Hébreux, où justement on voit les différentes manières dont Dieu a voulu parler, que ce soit par les prophètes, que ce soit maintenant par le Fils, et maintenant pour nous, dans cette communication qu'il a avec l'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit nous est donné, pas simplement, je dirais, excusez-moi du terme, pour que nous nous bronzions de la présence de Dieu, mais pour que nous puissions nous aussi être actifs dans notre communication de qui est Dieu, par le fait qu'il nous habite, par le fait que sa parole nous habite. J'aime beaucoup aussi le Deutéronome. C'est une manière bizarre d'avoir traduit ce que dit l'hébreu de ce livre, puisque Deutéronome, dans l'hébreu, veut dire les paroles, normalement. Et on s'est concentré aussi parfois sur notamment la notion des 10 commandements. Ce n'est pas les mitzvot, en tout cas pas dans le texte, pas des commandements, ce sont des paroles. Et Dieu, avec sa parole, va toujours nous libérer. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique et dans le pays que vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, ton petit-fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ce sont des paroles de vie que Dieu donne déjà à son peuple. Et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vie, c'est une question de génération. On le transmettait bien sûr de génération en génération, et comme vous le savez, Dieu s'est défini, s'est présenté comme le Dieu des générations, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, je pourrais dire, et puis de vous et de moi. Il est ce Dieu qui veut se transmettre, qui veut vivre au travers des générations. On le verra un peu plus loin dans la suite de ce texte, que ce n'est pas simplement un moment spirituel qu'on passera pour être en relation avec Dieu, mais que cette parole, elle nous habite. Il dira justement, comme vous allez le voir, quand tu seras en voyage, quand tu te couches, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de lieu religieux pour Dieu. Ça fait partie de notre vie, cette parole doit nous habiter. Ça, c'est simplement un tableau d'un artiste juif que j'ai trouvé intéressant. Vous voyez bien que la parole, la dimension de la parole de la Torah, des 5 livres de la Torah, est phénoménale par rapport à la montagne ou par rapport au peuple, peuple qui est au pied non seulement de la montagne, mais au pied de cette parole pour la recevoir. C'était quelque chose pour les Juifs qui était essentiel. C'est le peuple de la parole. Et même aujourd'hui, on peut considérer que si le peuple juif a survécu à tant de tribulations, c'est à cause de cette parole, à cause de cela. J'entendais un commentateur juif sur les émissions religieuses qui sont données à France 2, je trouve toujours assez intéressant. Et il disait, pour nous, nous considérons que si le monde existe encore, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah. C'est intéressant, hein? Voilà, c'est leur façon de penser. Mais pour dire comment, pour eux, la parole est très importante. Dans ce fameux chapitre aussi 6, il y a bien sûr ce verset central qui nous est donné. Ici, tu écouteras donc Israël, tu observeras avec soin afin de prospérer, de multiplier sans mesure, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant. La multiplication et la prospérité, ce n'est pas nécessairement directement une notion de succès pour ce que Dieu nous a dit ici, mais le respect de cette parole est une clé de la réussite, tout simplement parce qu'on entre dans le projet de Dieu. On entend ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie sine qua non de bonheur. Parfois, cette parole nous posera des problèmes, même encore aujourd'hui, quand on la partage. On n'est pas toujours bien vu. Est-ce que c'est ça notre ambition ? Est-ce que notre ambition, c'est d'être bien vu, finalement ? Ou bien est-ce que notre ambition, c'est d'être bien vu du Seigneur, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Le cœur de la foi d'Israël était dans ce verset 4, et justement, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est le texte qui était répété par le peuple d'Israël chaque jour. Et ce terme d'écouter veut dire justement entendre, en même temps apprendre, exaucer, mais aussi obéir. Ça veut dire aussi proclamer, convoquer. Cette écoute est en même temps une proclamation, une confession de foi, mais aussi une décision d'obéissance. Le fait d'échanger, de partager la parole, implique l'obéissance, sinon la parole devient de la parlotte. Encore une fois, ce texte, je suis l'Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Ces paroles que je te prescris aujourd'hui sont gravées dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants et tu t'en entretiendras soit dans ta maison, soit en voyage, soit en te couchant, en te levant, tu les attacheras comme symbole sur ton bras, tu les porteras en fronton entre tes yeux. Bien sûr, ce verset, Jésus le cite lui-même comme étant justement « Aimer le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ton âme », il le redit « Et ton prochain comme toi-même ». Nous avons ici typiquement dans ces versets le concept de la formation de disciples, totalement. La parole de Dieu est partout, il n'y a pas seulement un moment dans la journée, elle accompagne la vie, elle est là, elle signifie qu'elle fera partie de toi. Elle est gravée dans ton cœur. J'aime beaucoup cette notion de graver dans ton cœur. C'est déjà une anticipation de ce que vont répéter les prophètes Jérémie au chapitre 31 et Ézéchiel, chapitre 18, si je ne me trompe pas, où il est dit que la parole, les commandements seront dans ton cœur et pas simplement dans des tables extérieures. Elle sera partie de toi-même. Mais comment est-ce que les Juifs, alors ils ont fait eux-mêmes d'une manière littérale, en mettant la parole au linteau de leur maison, la mezouza, il y a aussi les tefilim, c'est-à-dire on met la parole dans, vous avez vu, au front et puis autour de son bras, parce que pour les Juifs, cette parole, elle doit influencer le centre de nos pensées, mais aussi notre action. C'est pas simplement quelque chose d'intellectuel qu'on recevrait, mais cette parole va nous influencer aussi dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous partageons. Et puis, vous connaissez bien cette fameuse image du fameux film avec Charlton Heston, ou les tables de pierre. Eh bien, aussi pour les Juifs, ils ont une compréhension, c'est intéressant. Ils font une contraction de deux mots qui est Av et Ben, et la contraction de ces deux mots donne le mot pierre, Eben. Et pour eux, la parole est vraiment gravée dans la pierre quand les pères parlent au fils. Je trouve c'est intéressant. Et le mot Bana veut dire bâtir, rebâtir, avoir un avenir. Et je crois aussi pour nous, chers amis, que lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu, que ce soit entre nous ou à l'extérieur, alors nous bâtissons l'avenir. Il y a quelque chose de phénoménal. C'est ainsi, comme ça, que Dieu agit au travers des générations. Puis notre génération, nous avons aussi nous-mêmes une responsabilité envers notre génération. Il y a aussi, bien sûr, toute la notion de la bénédiction et toute cette parole qui habite partout dans le peuple juif, au niveau de la Pâque, par exemple. Et c'est là qu'il y a toujours la notion de la pédagogie chez les Juifs, c'est le questionnement. Vous voyez, vous vous souvenez peut-être de ça. « Lorsque ton fils te demandera ». Et même dans le repas de la Pâque, il y a dans la tradition quatre enfants qui sont modantés pour poser des questions, parce qu'on veut se rappeler, on veut se rappeler les choses. Alors lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites, tu diras à ton fils, nous étions, et vous connaissez l'histoire. Donc la pédagogie, la notion, c'est de susciter des questions. C'était aussi la méthode de Jésus, vous vous souvenez très bien, Souvent, il répondait à une question par une autre question. Pour nous inviter, pour inviter les gens à réfléchir. J'aime aussi beaucoup cette image avec le film Rabbi Jacob, quand il arrive à Paris, on lui dit « Écoute, nous avons 1000 questions », puis il lui dit « Et moi, j'en ai 10 000 ». Il répond. Alors, il exprime ainsi cela. « Lorsque ton fils te demandera pourquoi cette nuit... » Alors, il y en avait un qui devait dire « Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits ? Pourquoi ne mangeons-nous du pain zim ? Pourquoi les herbes amères ? Pourquoi les trempons-nous deux fois ?» etc. Alors, il y a cette notion du questionnement. Je crois aussi que notre vie, Dieu nous appelle à susciter des questions au monde qui nous entoure par notre manière de vivre. Et quand nous suscitons des questions, alors nous pouvons aussi parler. Parfois, les gens ne peuvent pas nous entendre à cause de ce qu'ils voient en nous. Il y a toute une phrase célèbre de quelqu'un qui a dit « Je ne t'entends pas parce que ton être me parle plus que ta bouche. » Je crois que ça nous remet à la place. Comment est-ce que nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui ? L'apôtre Paul a dit cette phrase qui m'inspire beaucoup, qui me plaît beaucoup. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que c'est en lui qui est révélée la justice de Dieu par la foi. » Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous avons un trésor, chers amis. Nous avons un trésor. Est-ce que nous sommes passionnés par ce trésor que Dieu nous a donné ? Est-ce que nous sommes passionnés ? Est-ce que nous sommes passionnés de le partager ? Comment pourrions-nous garder cela ? Nous sommes comme des capitalistes, quelque part, si nous gardons ce trésor pour nous sans le partager. Nous avons une vision et une manière de vivre capitaliste et égoïste. Est-ce que nous aurions à avoir honte de l'Évangile ? Au début de la semaine passée, j'étais dans une ville en Suisse romande, et puis j'ai été agressé juste par une femme, qui a dû ensuite m'être mis en psychiatrie. Mais simplement, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose simplement qui la dérangeait. Et puis je pense que les chrétiens, dans tout ce qu'elle a raconté ensuite, la dérangent. Je pense que c'est salutaire, même quand ça finit par un coup de poing dans la figure. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si nous dérangeons, alors je crois qu'il y a encore de l'espoir si nous dérangeons. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. L'apôtre Paul parlait aux Philippiens, il disait, il y en a qui annoncent l'Évangile avec des intentions différentes. Ils veulent me faire des problèmes. Ils n'ont pas des intentions pures. Peut-être c'est notre cas parfois, ou ça peut être le cas d'annoncer l'Évangile pour se faire une gloire. Il était assez cool, comme on dirait aujourd'hui, l'apôtre Paul, quand il disait, finalement, l'Évangile est annoncé. Ce qui est important, c'est que cette parole soit annoncée. Malheur à moi, il est conscient de sa responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Et si la bonne nouvelle est bonne pour moi, elle est bonne pour tous, mes chers amis. Après, libre à chacun de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Et le Seigneur, je dirais, ne posera pas de questions sur les gens qui n'ont pas voulu recevoir la parole qu'on leur a annoncée, mais plutôt sur la raison pour laquelle nous n'avons pas donné l'occasion aux autres de la recevoir. C'est cela. Peut-être qu'un jour, il nous posera comme question. Cette parole, elle construit l'espérance. Et je crois qu'aujourd'hui, l'espérance, c'est peut-être dans la société moderne du XXIe siècle, la notion qui est la plus pertinente. Si on veut parler de l'amour, c'est une notion qui est galvaudée, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, l'amour, en tout cas dans la société aujourd'hui. Si on parle de la foi, elle est souvent identifiée à la religion, aux croisades, aux, je ne sais pas quoi, aux conflits et tout cela. Mais quand on parle de l'espérance, alors, il y a encore aujourd'hui des oreilles attentives pour entendre parler d'espérance dans un monde de désespoir. C'est d'ailleurs sur ces thématiques que nous avons aussi vécu cette année, prévu cette première année pour notre petite communauté à Morat, l'espérance pour les couples, l'espérance même si un enfant arrive trop tôt, l'espérance si tu as des problèmes de dépendance, l'espérance si tu es persécuté d'une manière ou d'une autre. Voilà, toutes ces thématiques d'espérance, nous avons misé sur cette notion de l'espérance. Nous avons d'ailleurs sur cette thématique une ouverture intéressante, même dans les journaux locaux, un journal Tout Ménage, gratuit, qui est d'accord de publier nos articles sur cette thématique. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui proclame, qui parle ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'on lui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Cette parole du Christ a bouleversé ma vie. J'étais personnellement, à l'âge de 18 ans, en recherche, et j'ai acheté une Bible à l'époque. Moi, j'étais d'origine catholique. Je commençais à lire cette Bible, ça avait l'air pour moi du chinois, je ne comprenais pas grand-chose. Puis une année plus tard, quelqu'un m'a abordé dans la rue. Il m'a dit, voilà, je t'annonce un Jésus qui a transformé ma vie. Puis après, il y avait un livre de témoignages. Et dans ce livre de témoignages, il y avait des références à la Bible. Alors, j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai ensuite vérifié dans la Bible que j'avais achetée une année auparavant si c'était vrai. Et à la fin de la lecture de ce témoignage, après avoir fait ces vérifications, eh bien, je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, ben, si c'est vrai, j'ai besoin que tu me changes. Et il l'a fait. J'ai vraiment vécu une expérience de transformation phénoménale. La foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, cette parole, elle a besoin d'être liée à quelque chose de vivant. Si je la lis, ou bien si les gens la lisent comme ça, d'une manière brute, peut-être, ils auront de la peine à la digérer. Mais là, alors, quelqu'un m'a dit, voilà, je la vis, cette parole. Elle a pris un sens. Et tout d'un coup, elle a pris un sens pour moi. Et étrangement, quand j'ai fait cette prière, quand j'ai lu la parole, elle est devenue claire. Elle était obscure avant, elle est devenue claire ensuite. C'était magnifique. La parole de Dieu par excellence. Comme je le dis, voilà, il y a souvent, on peut utiliser la parole, avoir un abus verbal. On pourrait avoir un abus verbal de la parole si on casse les pieds aux gens, si je peux dire ça comme ça. Mais la parole, comme je le répète, elle est fondatrice d'identité et le fait de s'approprier la parole de Dieu, elle permet un changement de vie et une nouvelle espérance grâce à l'Esprit Saint. Elle est pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est la manière dont Jésus se présente dans le prologue, dont Jésus est présenté dans le prologue de Jean. Il est venu plein de grâce et de vérité. Ne venons pas d'abord avec une vérité qui assomme, mais venons avec une parole de grâce, puis la vérité prendra sa place. Oh, le temps viendra pour la vérité. Annoncer la parole ne veut pas dire être un donneur de leçons, c'est être habité et être transformé par cette relation d'amour avec Jésus et laisser déborder cette parole de ce qui nous habite. Merci de votre attention. Peut-être on va prier ensemble encore. Seigneur, nous avons besoin constamment d'être transformés, renouvelés par la présence de l'Esprit Saint. Et comme Paul nous exhorte à le faire, que la parole de Dieu habite en nous abondamment, afin qu'elle ne soit pas simplement en nous pour nous, mais qu'elle puisse être aussi à disposition de ceux que nous côtoyons. C'est aussi ma prière pour chacun de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.